Douane, le 14 janvier 1937. Très estimé monsieur Affolter, cher ami, il ne faut en aucun cas vendre, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point. Je crois que vous avez mal interprété un passage dans ma dernière lettre. À la suite de la correction des eaux du Jura, respectivement l'abaissement du niveau des eaux du lac, de nombreux sites palafitiques ont émergé du lac de Bienne et les paysans de la région ont trouvé des milliers d'artefacts datant du néolithique. Ces objets du passé firent alors l'objet d'un commerce intense. Les collectionneurs privés et les musées achetaient pratiquement tout ce qui leur était proposé. C'était une véritable euphorie. On croyait avoir trouvé nos propres racines. Mon père a lui aussi vendu quelques-uns des objets qu'il avait trouvés sur la rive ou à l'aide de la pince depuis son bateau. À vrai dire, plus nombreux étaient les contacts qu'il entretenait avec des chercheurs, plus il faisait la fine bouche. Il devint aussi membre de la Société suisse des antiquaires et ne se séparait plus aussi facilement de ses pièces. Heureusement, sa collection constitue la base du musée que j'ai mis en place durant les dernières années afin de montrer quel trésor et quel riche passé nous possédons ici au bord du lac. Je ne dédaigne pas prendre en charge les collections de paysans de la région pour les intégrer au musée, afin de donner encore plus de poids à la collection, mais aussi pour les soustraire du marché. Nous ne voulons pas nous rendre au musée national à Zurich pour voir les magnifiques pièces qui ont été fabriquées jadis ici, chez nous. C'est un coup de chance que les locaux du commerce de tissus de mon père, jadis prospère et actif en Romandie, dans le canton de Soleure, et en Emmental, se soient soudain trouvés orphelins suite au partage successoral et cherchaient pour ainsi dire une nouvelle destinée. J'ai bien sûr montré votre lettre à madame mon épouse, elle s'est vue très honorée de vos éloges sur les vitrines. Elle a un sens exceptionnel des beaux arrangements. Je ne suis pas très porté sur l'art, alors que ma sœur Alice gagne sa vie en tant que peintre sur porcelaine depuis la mort de son époux. Ce sont aussi elles qui m'ont suggéré les salons d'automne. Un groupe d'artistes fameux habite tout près d'ici. En cette période de détresse économique, ils ont beaucoup de mal à vendre leurs œuvres. Ainsi, nous les avons invités, la première fois il y a 2 ans, à organiser une exposition dans les locaux de notre musée. Elle a lieu en automne, en même temps que les vendanges, lorsque tous sont d'humeur festive et potentiellement acheteuses. Les peintres consacrent leurs œuvres au paysage du lac de Bienne, mais aussi à des motifs figuratifs. Alors que l'épouse du peintre, Fernand Giauc, est un remarquable artisan d'art. C'est du moins ce que m'ont dit mes femmes. Vous le voyez, cela n'a rien à voir avec ces nouvelles tendances qui s'inspirent de l'art primitif. Je ne pense pas que le jour viendra où nous trouverons que ces idoles sont belles. Les tableaux rappelant des dessins d'enfants réalisés par Paul Klee, qui est revenu vivre à Berne, me sont également étrangers. Bien que je connaisse Klee personnellement, nous étions dans la même classe au gymnase à Berne. C'était déjà un drôle d'oiseau à l'époque. Il préférait griffonner les bords de ses cahiers plutôt que de sérieusement prendre part aux leçons. Cela n'a rien à voir avec les anciennes civilisations, comme vos idoles de Abaluké ou les statues égyptiennes. C'est là que l'on voit comment les cultures et leur manière d'aborder les arts plastiques forment un tout qui constitue bien davantage que la fabrication d'outils fonctionnels, de récipients, etc. Ce qui nous ramènerait cependant au thème des lacustres. La riche culture iconographique de Abaluké que vous avez découverte et étudiée, et si je me remémore vos explications, en partie plus ancienne que celle des lacustres. Il est clair qu'on ne peut pas les comparer directement. Lorsque je considère les artefacts de mon musée, j'en arrive à la conclusion que les hommes qui commencèrent à s'établir dans notre région, 4 millénaires avant Jésus-Christ, étaient d'un point de vue existentiel, surtout occupés à assurer leur propre survie, sans doute notamment en raison des conditions climatiques difficiles. La production agricole était encore pour eux quelque chose de nouveau et les récoltes étaient par conséquent certainement désastreuses. Alors que le soleil et la chaleur de Zena semblaient faire prospérer les cultures d'elles-mêmes. Voilà pourquoi c'est ainsi que je le conçois pour les lacustres suisses. Une réflexion culturelle approfondie sur les questions d'ordre spirituel, sociale et esthétique n'entrait pas encore en ligne de compte ou restait encore marginale. Car une telle réflexion se nourrit de temps libre et de farniente. Certes, les phénomènes de l'univers, la course du soleil, de la lune, imprégnaient leur pensée du devenir, de l'être et de l'avoir été, mais vraisemblablement sur un plan très général. On part du principe que l'on trouve ici si peu de tombes datant du néolithique, proprement dit, car les lacustres brûlaient leurs morts. Ainsi, nous ne pouvons là non plus rien déduire sur le religio et les relations que les hommes, les femmes et les enfants entretenaient entre eux. Il y a assurément des pièces isolées qui indiquent une hiérarchie au sein des communautés ou qui présentent des éléments décoratifs. Mais un niveau que l'on ne pourra jamais comparer avec celui de la civilisation de Abaluké. Voilà aussi la raison pour laquelle j'essaye, tout comme les musées dans tout le pays, de valoriser les pièces de manière esthétique par le biais de leur présentation. Je suis presque envieux de la collection dont vous vous occupez, alors qu'ici ce sont des techniques de base améliorées, comme poncer, percer ou frapper, qui font notre fierté. Mais d'un autre côté, je veux continuer à chérir et à afficher la chance que nous avons d'avoir eu l'occasion de découvrir ici, au lac de Bienne, de si riches trésors issus d'une époque lointaine. Le lien que vous faites entre le déclin de la culture matriarcale de Abaluké et la transition des cueilleurs et chasseurs vers la culture agricole est très intéressant. Je n'avais jamais envisagé cela sous cette perspective. En fait, on attribuerait volontiers la culture des champs à la gente féminine, mais la propriété sédentaire exigeait certainement d'être défendue et entraînait indirectement des conflits, une tâche qui incomberait alors aux hommes en raison de leur supériorité physique et impliquerait également leur domination de la société. Cela demande certainement une réflexion plus approfondie. Toutefois, sur la base des découvertes, on sait que les lacustres se consacraient de plus en plus aux cultures, mais persistaient cependant à incendier leur village pour en construire d'autres ailleurs. Je suppose que cela était lié à la fertilité des sols, mais justement aussi aux attaques et destructions ennemies. Nous avons encore un grand travail d'observation à faire avant de découvrir le mode de vie des lacustres. J'aimerais que les universités œuvrent davantage dans cette direction. Je tiens à vous exprimer, cher Walter Folter, toute ma gratitude pour votre engagement dans la recherche sur la civilisation de l'île de Sénin. Je vous remercie sincèrement de me permettre d'y prendre, pour ainsi dire, part grâce à vos visites et à vos lettres. Grâce à vos précieuses suggestions, vous m'avez incité à sans cesse reconsidérer et réinterroger les artefacts de mon musée. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes respectueuses et cordiales salutations. Votre Karl Irlet.